Dans le cadre de mes recherches sur l'histoire des politiques culturelles au Québec, je me suis intéressé dans cet article sur la période de 1970 à 1976, c'est-à-dire la période où Robert Bourassa est premier ministre du Québec. Alors, Bourassa prend le pouvoir en avril 1970 et quelques mois plus tard, c'est la crise d'octobre. Alors, il y a beaucoup d'agitation dans la société. Également, c'est une période où les débats constitutionnels font rage, si on peut dire, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois autour de du rapatriement de la Constitution. On peut penser aussi à toute la question du développement économique. Bourassa est élu avec la promesse de créer 100 000 emplois. Il y a aussi une agitation dans le milieu syndical, une agitation dans le milieu linguistique, puisque on va adopter la loi 22 créant le français comme langue officielle du Québec. Alors, dans ce contexte général passablement mouvementé, quelle est la place, finalement, de la culture au sens strict et au sens large? Alors, c'est un peu la question que je me suis posée et je l'ai orientée en fonction de l'idée de souveraineté culturelle, qui est un terme que Bourassa lui-même va lancer au début de son mandat et qu'il va reprendre en 1973, au moment où il est réélu comme chef du gouvernement. Alors, la question de la souveraineté culturelle s'inscrit dans un débat large, si on peut dire, autour des négociations constitutionnelles. Et Bourassa est, je dirais, préoccupé par la nécessité pour le Québec d'avoir des pouvoirs constitutionnels qui lui permettent, ou qui permettent à la société québécoise d'assumer ses responsabilités, étant donné que c'est la seule société, seule communauté politique majoritaire en Amérique du Nord. Et ça, Bourassa revient souvent sur cette idée-là, et soit par des arrangements constitutionnels ou par des arrangements administratifs, il veut faire en sorte que la culture, on verra dans quel sens il l'entend, devienne au fond l'ancrage de sa politique qu'il appelle de souveraineté culturelle. Alors, la culture, évidemment, pour lui, ce n'est pas uniquement une question de langue, ce n'est pas uniquement une question des arts, du patrimoine de tout ce qui tourne autour, de la littérature, par exemple. Mais c'est également une façon d'être, une façon de sentir, de vivre. Bref, c'est relié à l'identité, identité québécoise. Alors, à partir de là, il va essayer de négocier avec le gouvernement fédéral pour obtenir justement plus de pouvoir dans le cadre des négociations constitutionnelles. Et là, il va évidemment rencontrer deux types d'opposition. La première, le gouvernement fédéral lui-même. On sait qu'à cette époque, Gérard Pelletier est secrétaire d'État de 68 à 75. Et au cours de cette période, le gouvernement fédéral va développer sa propre politique culturelle. Alors, le secrétariat d'État va devenir, en somme, le ministère fédéral de la culture. On va intégrer dans ce ministère, dans cette structure, des liens avec Radio-Canada, l'Office national du film, la Bibliothèque nationale, le Conseil des arts. Bref, toutes les institutions fédérales vont être un peu sous la gouverne de ce secrétariat d'État. Et Pelletier va définir donc une politique culturelle fédérale qui n'est pas uniquement adressée ou liées à des préoccupations vis-à-vis du Québec, mais comme affirmation de l'identité canadienne par rapport aux États-Unis. Donc, il y a une volonté de créer une politique nationale de la culture. Alors, cette volonté fédérale va se heurter, évidemment, aux prétentions ou à la volonté du Québec, de Bourassa et de ses ministres de la culture, en particulier Jean-Paul Lallier, Denis Hardy, on le verra plus loin, à développer et à rapatrier des pouvoirs qui lui sont dus d'après Robert Bourassa. L'autre volet, si on peut dire, de l'opposition, c'est celle des milieux souverainistes. On sait que c'est la montée du Parti québécois. C'est aussi la montée des mouvements de gauche liés aux syndicats. Les artistes au Québec, dans les années 70, ont beaucoup d'envergure. Il y a une effervescence culturelle qui est la création, en même temps, je dirais, une frustration qui se développe par rapport à l'action ou à l'inaction, si on veut, du gouvernement québécois et du ministère de la Culture, qu'on appelle à l'époque ministère des Affaires culturelles, par rapport à la création au Québec. Donc, l'autre opposition va venir des mouvements souverainistes, et en particulier le tribunal de la culture. On verra que ce tribunal va avoir une critique radicale, je dirais, des positions de Bourassa sur la souveraineté culturelle. Alors, l'opposition vient donc du gouvernement fédéral qui accuse Bourassa de faire le jeu des séparatistes, comme il dit, avec la notion de souveraineté qu'il lui associe à la culture, mais qui est associée évidemment à la politique, à l'indépendance du Québec. Du côté des mouvements souverainistes, on dit que c'est un slogan vide de sens et c'est un simple, justement, slogan électoral. Alors, que va faire cette opposition nationaliste, je pense? Elle va s'exprimer à travers le tribunal de la culture. Qu'est-ce que le tribunal de la culture? C'est un mouvement citoyen, si on peut dire, qui est né, qui a été créé en 1975 qui va être sous la présidence de l'anthropologue Marcel Rioux de l'Université de Montréal. Il y aura aussi des artistes qui vont siéger comme commissaires. Alors, c'est un groupe, là, je dirais, volontaire, qui a peu de moyens et pour lequel on n'aura pas de collaboration de la part du ministère des Affaires culturelles. Alors, que dit ce tribunal de la culture? Alors, il va faire témoigner, si on veut, des groupes et des individus qui ont des liens avec le ministère des Affaires culturelles. On va critiquer l'inaction, l'inefficacité aussi de ce ministère. Et on va être assez critique et assez sévère. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les ministres changent beaucoup. Il y a eu M. Cloutier, ensuite Mme Clark-Clenn-Casgrain, ensuite Denis Hardy et à la fin Jean-Paul Lallier. Donc, des gens qui, comme ministre, ne durent pas plus que un an, des fois moins, ou deux. Alors, on peut difficilement développer une politique culturelle. Par ailleurs, toujours dans le contexte général, si on regarde les débats de la Chambre à l'Assemblée nationale ou dans les discussions autour des crédits des ministères, la notion même de culture commence à s'élargir. Alors, il ne s'agit plus uniquement des arts, de la littérature et du patrimoine, mais aussi des façons d'être, de sentir, de penser. Et bref, une perspective que qualifie lui-même Rioux d'anthropologie. Alors, cette idée, il n'est pas le seul, évidemment, à la partager. Même Bourassa le dit. Hardy, lorsqu'il est ministre de la Culture, l'affirme également. Mais ce que le tribunal de la culture critique, au fond, c'est, au-delà des belles paroles, l'inaction du gouvernement pour assumer, pour prendre en charge la production, ou le soutien, je dirais plutôt, à la production culturelle du Québec. Parce que ce qu'on remarque à l'époque, c'est ce que le tribunal appelle le dumping de la culture américaine et française au Québec, notamment dans le domaine du livre, du cinéma et de bien d'autres secteurs. Alors, on se dit, si le Québec, à travers ses structures, son ministère, ne soutient pas cette culture, on se paie de mots et finalement, on risque d'être complètement aliéné par une culture étrangère et faire en sorte que, dans l'esprit des artistes d'ici, ou dans l'esprit aussi des gens, d'une façon générale, ce qui est fait, ce qui est produit au Québec, est moins pertinent et moins intéressant que ce qui peut se faire ailleurs, étant donné qu'il y aurait comme une mentalité de coloniser liée à ce dumping de culture dominante. Le tribunal de la culture va également critiquer la notion de souveraineté culturelle en disant que, au fond, la souveraineté n'est pas divisible. On ne peut pas parler d'une souveraineté culturelle d'un côté et de ne pas avoir la souveraineté politique ou économique de l'autre. Donc, c'est un tout. Et si on ne fait pas le saut vers la souveraineté, on ne peut pas parler de souveraineté et d'épanouissement de la culture québécoise. Dernière chose aussi intéressante dans le cadre du tribunal de la culture, c'est que les commissaires, et Rioux en particulier, sont particulièrement conscients de l'importance des communications dans la culture. Là, il y a comme une jonction qui va s'établir entre les affaires culturelles de façon plus traditionnelle et les communications, étant donné que là, on voit apparaître, se développer Radio-Québec, qui obtient une licence de diffusion, et beaucoup d'autres, le cinéma québécois. Les communications, le câble commence à être utilisé un peu partout. Et on se dit qu'il faut, pour préserver l'avenir, avoir une politique qui relie culture et communication. Alors, si on considère maintenant la question des communications, dans le gouvernement Bourassa, le porteur de ballon, c'est évidemment Jean-Paul Lallier. Il est ministre des communications dès le début, en 71, 70-71, et va le demeurer jusqu'en 75. Alors, que va faire Jean-Paul Lallier? Il va essayer de définir une politique des communications pour le Québec. Et encore une fois, là, il va se heurter au veto, si on peut dire, du gouvernement fédéral. On sait que le Conseil privé de Londres avait, en 1932, considéré, statué plutôt, que la question des communications relevait du gouvernement fédéral. Alors, quand même, Bourassa et Lallier vont vouloir obtenir la juridiction du Québec dans le domaine des communications. Justement, la question du câble, notamment, qui commence à se développer et à s'étendre. Et Lallier dit qu'au fond, les communications, ce n'est pas uniquement une question de contenant, mais c'est une question aussi de contenu. C'est que les communications, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la culture d'une façon générale, donc à l'identité québécoise. Et vous avez justement le fait que Radio-Québec commence à diffuser, amène, je dirais, des arguments dans cette politique des communications. Et Lallier va essayer de s'allier à d'autres provinces dans sa négociation avec le gouvernement fédéral, notamment avec l'Ontario, qui lui aussi, comme gouvernement, avait une politique de diffusion TV Ontario et va finalement se rendre compte que, il l'a dit lui-même, les autres gouvernements provinciaux n'ont pas le souci identitaire comme le Québec peut l'avoir. Autrement dit, le gouvernement fédéral peut bien développer une politique des communications qui fait l'affaire de toutes les provinces, sauf le Québec, étant donné que, encore une fois, la question identitaire fait qu'il faut conserver les outils qui sont nécessaires à l'expression culturelle du Québec. Et Lallier va évidemment publié différents documents liés à cette politique qu'il souhaite mettre en œuvre. Alors, son ministère chapeaute Radio-Québec et la Régie des services publics. Et cette Régie des services publics, c'est elle qui, pour le gouvernement du Québec, va accorder des licences de diffusion au câble aux distributeurs. Alors, rappelons-nous encore une fois que nous sommes au milieu des années 70. Et ça va donner lieu à ce qu'on a appelé la guerre du câble. C'est-à-dire que dans le Bas-Saint-Laurent, en particulier, le gouvernement fédéral va donner une licence d'exploitation à un diffuseur qui aurait un territoire qui s'étend de Bic à Matane et incluant la Matapédia. Et le gouvernement du Québec va lui donner, via la Régie des services publics, un territoire plus restreint à cet promoteur appuyé par le fédéral pour donner le reste du territoire à un promoteur de Rimouski. Et entre les deux gouvernements, il y aura une espèce d'épisode rocambolesque, on peut dire, où les antennes portatives du gouvernement du Québec vont être poursuivies par la GRC et on va essayer de diffuser malgré tout. De sorte que ce conflit va finalement se résoudre plus tard, en 1977. À ce moment-là, la Cour fédérale va évidemment donner raison au gouvernement fédéral comme étant de juridiction fédérale. Donc, cette bataille de l'Allié va être perdue. Et un peu découragé, l'Allié va demander d'être un peu relevé de ce dossier. Et Robert Bourassa va le nommer à la culture. Et c'est René Hardy, qui est à la culture, qui va passer aux communications. Et la dernière, je dirais, le dernier geste de Jean-Paul Lallié va être de développer une première politique de la culture, ce qu'on appelait le livre vert de Jean-Paul Lallié en 1976, mais quelques mois avant les élections, de sorte que son projet de politique culturelle n'aura pas de suite immédiate. C'est le gouvernement du Parti québécois qui, à travers la politique du développement culturel, Dr. Lorrain, le livre blanc, va prendre le relais, si on peut dire. Mais on va quand même saluer le travail que Jean-Paul Lallié a fait du côté du gouvernement précédent. Alors, que conclure au fond de cette période de 1970-1976 au niveau de la culture, des politiques culturelles? C'est pas une période où il y a eu de grands accomplissements, mais c'est une période où, pour la première fois, je dirais, la culture, les enjeux culturels ont fait l'objet de débats publics qui ont dépassé le cercle plus restreint des spécialistes, des artistes, pour s'élargir, je dirais, à l'ensemble de la société québécoise, puisqu'on parlait de la culture comme une façon d'être, une identité, et non pas seulement comme un lieu d'expression personnelle. Et ce germe va se développer par la suite et va prendre de l'ampleur dans la seconde partie des années 70. Mais déjà, on ouvre la porte, je dirais, à une politique d'ensemble de la culture. L'autre chose qui est important de souligner, je le disais tout à l'heure, c'est le fait que culture et communication vont non pas se joindre tout de suite, mais enfin dialoguer ensemble, puisqu'on va se rendre compte que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas parler de culture sans parler de communication. Mais ce n'est qu'en 1994 que le ministère des Affaires culturelles va devenir le ministère de la Culture et des Communications. Mais déjà, les bases, je dirais, de cette discussion, de cette vision, sont établies à l'époque des années 70-76.